A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Trio, groupe mythique français qui fête cette année ses 25 ans d'existence. Je reçois à mon micro deux de ses membres, Gizmo et Christophe, qui retracent l'histoire du Quatuor depuis la MJC de Fresnes jusqu'aux plus grandes salles françaises et des millions d'albums vendus. Comment se sont-ils rencontrés? Comment ont-ils créé leur groupe? Comment on se faisait connaître en tant qu'artiste musical avant Internet, Spotify et YouTube? Comment ont-ils réussi à garder cette indépendance depuis tout ce temps? Et comment ont-ils fait pour rester soudés depuis plus de deux décennies? Autant de questions auxquelles Gizmo et Christophe vont répondre, sans oublier l'histoire assez folle de ce nom qu'ils n'ont même pas choisi. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux trucs. Le premier, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr, mes épisodes de podcast. Le deuxième truc, c'est que si vous avez 2 minutes, un iPhone et un iPad, ou un iPad bien sûr, mettez une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcasts à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle Histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur www.histoiredesuccès.com et si l'interview vous a plu, parlez-en autour de vous, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de Gizmo et Christophe, de Trio.
On est avec Trio, enfin en tout cas avec deux trios sur quatre, ou sur
voilà,
cinq.
Voilà, c'est ça. Mais les meilleurs, t'es avec les meilleurs. Donc là, on va passer une heure ensemble, mais t'es avec les meilleurs des trios, les deux autres dorment derrière.
Ils font dodo derrière le canapé.
On vous réveille dans une heure, les gars.
Donc on est avec Gizmo.
Salut.
Et puis Mali, donc oui, Christophe.
Christophe.
Enchanté.
Pareillement, ravi d'être là.
Très très cool de vous avoir. On va retracer un petit peu l'histoire du groupe, parce que là, vous sortez un nouvel album pour fêter les 25 piges
ouais.
du groupe.
C'est ça.
Ça fait un bail. Et vous avez, vous avez une quarantaine d'années, c'est ça? Donc,
écoute, on arrive plus vers les 50 en ce qui me concerne.
Toi, t'es ouais. gentil, toi.
Bah, Christophe, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune. Mais si on prend les trois autres, ouais, on arrive doucement à nos 50 ans. Voilà. Doucement.
Moi, j'ai pas encore 40 ans, mais j'y approche. Alors, c'est le mec qui raconte ma propre.
Je crois que tu mens.
Non, mais moi, je suis au bord des 40 ans, tu vois.
T'as quel âge? 40 ans.
43 ans.
Ça va.
Bah, je suis plus proche de 40.
Mais donc, ça fait plus de la moitié de ta vie que t'es
c'est un truc de fou.
T'es un truc de trio.
C'est ça, la
moitié d'une vie, ouais.
Waouh. Wow. On va retracer un peu l'histoire du groupe, si vous voulez bien. Parce
Avec
que
plaisir.
Si je me trompe pas, l'histoire veut. Et on a un peu le temps, tu vois, de raconter tout ça. Parce que je vous avais vu dans une interview raconter tout ça en 3 secondes. Mais vraiment, venez, on prend le temps de raconter un peu l'histoire. Mais tout démarre autour d'une MJC, c'est ça? À Fresnes?
Ouais, votre MJC histoire. De Fresnes. C'est un peu le lieu magique de notre banlieue, cette MJC, parce que il s'y passe plein de choses. On a un directeur d'MJC, Jacques Dorval, qui est un ange, qui est un mec qui dit oui dès qu'il y a une proposition de quelque chose, une asso qui veut faire quelque chose et tout. Et donc, ça nous permet à nous de s'y produire. Donc, nous, avec Manu, on jouait dans un groupe qui s'appelait Empanada à l'époque. Mmh. On était des grands fans de Fishbone, de Human Spirit, de toutes ces musiques qui mélangeaient un peu la funk, le reggae, le rock, la fusion, on appelait ça un peu, FFF, ouais. Tous ces groupes.
Ah oui.
Et du coup, on jouait dans cette MJC et Christophe, lui, faisait du théâtre au sein de cette MJC. Et donc, on fréquentait aussi, on va dire, le petit bar du haut de la MJC. On y traînait souvent et on s'est rencontrés donc au sein de cette MJC et Christophe...
Moi, en fait, j'habitais juste à côté de la MJC. Ouais. Donc, j'ai connu cette MJC quand j'avais 6 ans.
Oh.
Voilà, j'ai fait toutes les activités là-bas, théâtre, expression corporelle, poterie, tu vois, tous les trucs que tu fais dans une MJC. J'étais au lycée, quand je suis rentré au lycée, tous les ans, j'allais voir Dorval, le directeur, et je disais, je vais faire un spectacle à la fin de l'année, parce que mon délire, c'était chanter des chansons au piano, et puis le côté un peu comédie musicale. Mais c'était pas à l'époque de Notre-Dame de Paris et tout, c'était bien avant, hein, tout ça. Et moi, j'ai
j'aime bien comme tu précises.
Mais qui se rassure,
non, mais je dis ça parce que j'étais précurseur. Non, je dis comme ça. Et je déconne. Et voilà. Et donc je faisais des spectacles, tu vois. Et puis j'étais un petit peu le bout en train de la MJC, tu vois. Mais j'étais jeune, j'avais 15 ans, 16 ans. Et donc j'écris une comédie musicale. J'en écris plusieurs, une première, et puis après une deuxième qui s'appelle Histoire de piano. Et avant cette comédie musicale, un jour sur scène, parce qu'il y avait des groupes qui passaient. C'était avant que tu sois objecteur de conscience d'ailleurs, ouais, il me semble.
Ouais. Ouais.
Un jour, je vois des groupes qui passent, vous savez, des espèces de tremplins, pas de tremplins, mais des scènes ouvertes, ils appelaient ouais. ça. Scènes ouvertes, et un jour, je vois Guise sur scène, il était dans un groupe qui s'appelait Empanada, je m'en souviens, avec Manuel à la guitare, grosse formation, avec des cuivres et tout, et je regarde, je fais, waouh, putain, mais c'est trop cool et tout, et je crois que la première fois que je t'ai parlé, bah, je crois que c'était pour te proposer un rôle dans la comédie musicale.
Ah ouais, ouais, ça a été... Ah.
Dans les toilettes.
C'est possible.
Je crois que c'était dans les toilettes.
On faisait en fait beaucoup de va-et-vient entre le bar et les toilettes à cette époque. Hein. Et ouais, mais c'est, je crois que c'est ça. La première fois, c'est on s'est sympathisé, voilà, ça a déconné parce que c'est un grand déconneur quand même, Christophe. Donc on s'en déconne un peu. Et puis voilà, je vous ai vu et tout. J'ai écrit une comédie musicale. J'aimerais que tu joues dedans. Donc il m'a filé un rôle en plus qui était super, qui était incroyable. Et j'étais l'ange gardien
du théâtre.
Donc j'étais sur une balançoire en hauteur. Donc quand même, ça durait presque deux heures la pièce, une heure et demie, deux heures.
Ah donc vous l'avez vraiment produite.
Ah oui, oui, on l'a choisi. Et Manu est venu nous retrouver dans l'aventure parce que Christophe.
C'était un ange gardien qui jouait du reggae.
Bah
c'était
oui.
Sympa, tu vois.
Bien
il,
sûr.
Il jouait du reggae.
Voilà,
sur sa
avec mon sarouel, je me souviens, ma crête.
Ouais, voilà. Trop bien.
Un ange gardien un peu laïque, quoi, finalement.
C'est ça, exactement. Et non, et puis la rencontre, ça a fait mouche. Moi, ça a été une super aventure pour moi. Moi, j'avais fait un peu de théâtre quand j'étais plus jeune, mais ça a été une super aventure que de jouer dans cette comédie musicale. Et c'était une expérience nouvelle et tout. Et puis, suite à cette expérience, on l'a joué peut-être trois fois, je sais plus, deux, trois représentations.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et puis, on est partis tous en randonnée en montagne avec une bande de potes qui gravitait aussi autour de la MJC. On a embarqué une guitare. Et puis, le soir, dans les campements, une fois qu'on avait fait notre bonne marche en journée, on sortait la guitare, et puis on chantait les chansons de Christophe, les miennes, du Renaud, et on s'amusait à tout foutre en reggae. C'était okay. Le concept. Et puis, on a un pote qui était là, Totor, Jean-Marc, qui nous a suivis après, qui a tenu le stand de merchandising pendant des années avec nous, qui à la rentrée, nous dit, les mecs, venez... Je vous ai entendu jouer cet été, là. Venez faire un truc en première partie de mon groupe à la MJC. Ils faisaient un concert par an. C'était un peu le groupe de la MJ. Ça s'appelait okay. Morocon, leur groupe. Tu vois, genre, c'était vraiment creuser la tronche pour trouver le nom et tout. Et donc, on arrive dans cette MJC et on voit donc Morocon en concert. Et en dessous, on voit marqué Trio avec un Y. On dit, mais c'est quoi Trio? Bah, c'est vous, Trio. Et tu vois, mais pourquoi le Y? Bah, c'est le directeur de la MJC. Il est passé, Jacques. Il dit qu'avec un I, ça faisait tout d'as. Donc, il a mis le Y.
Putain, oui, c'est
et
vrai.
Donc, on dit go, bah, appelons-nous Trio. Allons-y. On va répéter dans le parc l'après-midi, derrière la MJC, juste avant de jouer. Et puis voilà, on s'éclate, on rigolait beaucoup, on se prenait pas du tout au sérieux. Loin de nous l'idée que ça allait devenir un groupe ou qu'on allait partir. C'était vraiment pour s'amuser, donc on s'est marré, on a passé une super soirée. Et puis
mais quand même, j'ajoute, excuse-moi Guise, mais déjà là, on chante La misère d'en face, on chante Une de campagne, on chante Un homme qui aime les femmes, chante La crise, on chante Jacques Amonayer, on chante Les soldats de plomb. C'était ça notre répertoire.
Ouais, ouais, ouais.
J'avais un truc qui s'appelait Trio Scofi.
Ouais, il y avait Trio Scofi, il y avait le fameux morceau sur Chirac qui apprenait les essais nucléaires.
Exactement.
Le Chirac au style où il imitait Chirac à la perfection.
À la perfection, genre.
Alors, si, il imitait super Chirac, bien Chirac à l'époque, on rigolait.
Avant Laurent Gérard, j'étais un précurseur, moi.
Non, et voilà, il est con. Et le truc n'est comme ça, Bibou, qui est le cinquième du groupe, quand même, qui est l'homme de l'ombre, qui s'occupe aujourd'hui de toutes les sociétés,
manager,
qui nous fait le son, qui est notre manager. Exactement, co-manager avec Alain Lahana, parce qu'on on a la chance d'en avoir deux super managers, qui voit le truc et qui dit, les mecs, faut que vous fassiez quelque chose avec ça, on enregistre un truc, et donc on a fait une première cassette qu'on a enregistrée à la MJC, il me semble.
Alors une cassette pour
les gens qui ne savent pas, alors c'est un petit objet en plastique très polluant
avec
d'ailleurs, avec deux petits trous dedans, et on met ça dans un lecteur de cassette. Et avant, on mettait ça dans les autoradios, dans les bagnoles, donc avec une petite bande magnétique à l'intérieur, et on pouvait y mettre quand même, on pouvait même enregistrer des morceaux dessus.
C'est vrai.
Et donc, c'était un objet qui était assez petit, qui se transportait facilement. Et nous en avons vendu un stock de cassettes à l'époque avec Trio.
Parce
comme ça.
Ouais, on en vendait après les concerts. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on jouait beaucoup à la MJC, tout petit peu en banlieue, mais on jouait beaucoup en Bretagne, parce que Guise avait ses attaches en Bretagne, et dans le milieu associatif vers Nevers, c'est là hein, où on a fait nos premières armes, la Bourgogne, où on jouait énormément, parce qu'il y avait des associations qui nous avaient pris un peu, comment dire, on était un peu leur chouchou, leur mascotte.
Leur mascotte, qui nous faisait jouer dans les bars, dans les premiers petits festivals qu'on a joués, et puis moi c'est vrai que j'allais en Bretagne, ma mère vivant là-bas, et j'avais des frères, et mes frères et sœurs aussi. J'allais souvent là-bas et il y avait énormément de cafés-concerts à l'époque en Bretagne. C'était un vivier pour aller pour des groupes comme nous. Ça a été une chance. Il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas tout ça pour se faire connaître. Il fallait aller jouer. Et donc, je prenais mon téléphone à l'époque avec Bibou qui me filait un coup de main et puis on appelait les bars et on envoyait notre cassette pour aller jouer. Voilà.
Après, souvent, on allait dans un bar, on blindait le bar. C'était ça.
Et, t'avais
le bar d'à côté qui disait, mais c'est quoi, c'est que vous venez dans
venez la semaine prochaine.
Venez la semaine prochaine. Et du coup, on s'est fait tous les bars et c'est pour ça que pendant, d'ailleurs, de nombreuses années, le public pensait qu'on était un groupe breton. Ça, on l'a énormément entendu. Parce que c'était une période aussi en Bretagne où il y avait énormément de cafés-concerts, où il n'y avait pas encore les normes européennes, ce qui permettait il y avait plus de liberté, disons, dans le fait, tu vois, pour
d'organiser des concerts
un petit peu à l'arrache et tout.
Alors, on parle de ça, vous vous êtes rencontrés en 95, c'est ça pour
ouais,
un
on va dire 96, 97.
Ouais, 97, un truc comme
voilà,
ça.
Voilà, après, on commence à être aussi branché, toutes les organisations de soirées étudiantes, des choses comme ça. Donc, on a beaucoup été joués dans des facs, dans des...
On a remplacé aussi beaucoup de groupes parce que quand des groupes, au dernier moment...
C'est vrai, on a eu des trucs dedans.
Ne pouvaient pas, les groupes annulés parce que je sais pas quoi, ils étaient trop bourrés ou je sais pas quoi.
Non,
ils nous appelaient parce que nous, on était trois voix, trois guitares. Donc, c'était très, très simple. Hop, oui, on arrive, bim, on se mettait dans la bagnole et hop, une heure après, on était là, quoi. Et ça, on l'a fait pas mal de fois.
Je me souviens d'une fois, on a remplacé un groupe parce que le chanteur s'était électrocuté sur son micro. C'était horrible. Le mec, il dit oui, vous pouvez pas venir remplacer le groupe parce que le chanteur est mort. En fait, non, tu te...
Et vraiment,
c'est en plus un petit groupe comme ça, les mecs.
Autant dire que ce soir-là, on a bien rigolé.
Ah, ouais, ouais.
Autant dire
on a dit ce soir, on joue en acoustique, c'est... en hommage. Non, mais voilà. Et puis on avait envie tous, on avait faim, on avait envie de faire de la musique.
Comment vous faisiez pour...
À ce moment-là, quand même, je sais pas, toi, tu continues quand même, Panada.
Oui.
Moi, je continue mes études, le théâtre. Donc, le groupe est là, mais ça reste quand même... je crois qu'on n'est pas encore conscient de se dire, attends, ce groupe, ça va, c'est avec ça qu'on va vivre et ça va être la colonne vertébrale de notre vie artistique. On ne se le dit pas encore.
Non, okay.
On pense, en plus, genre, on est très différents, on est trois. Donc il y a des coups durs, il y a des engueulades, il y a des, tu vois, parce qu'on est trois, parce qu'on est jeune, parce qu'on apprend à se connaître. Donc il y a tout ça, on fait cette cassette, on vend cette cassette et après cette cassette, on se dit on va faire un album et voilà. Et donc on voulait vendre assez de cassettes pour avoir assez d'argent pour pouvoir enregistrer notre premier album.
OK.
Et entre le moment où on a la cassette et le moment de l'album, la cassette s'est tellement distribuée.
Alors vous avez vous avez autoproduit la cassette et surtout autodistribué la cassette à l'époque.
Et l'album aussi.
Après on a sorti l'album, on a fait une grande fête à la MJC. Il se trouve que
toujours
la
MJC.
Ah ouais, c'est le fief. Hein,
quand on a sorti l'album, et je vais dire ça pour la suite de l'histoire, la cassette elle a été enregistrée en DAT. Donc tu la mixes même pas, c'est-à-dire que il y a des micros, tu chantes, tu mets aux campagnes, la mise en face, etc. C'est même pas mixé, c'est-à-dire que les niveaux sont mixés au même moment.
Ouais.
Enfin comment dire, en direct.
Oui.
Et c'est cette version-là. Et quand on a sorti l'album, le seul morceau qu'on a gardé de la cassette, c'est l'hymne de nos campagnes. Donc l'hymne de nos campagnes, la version que les gens entendent sur Mama Gubida et qui a eu après toute cette vie derrière, c'est la version de la cassette, tu vois. Donc ça va paraître un détail, mais...
Très authentique.
C'est très authentique. on sort cet album. On a vendu combien de cassettes? 3000 cassettes, je pense. Je pense que c'est de l'ordre de 3000 cassettes. C'est énorme. Hein. Après les concerts, franchement, c'est énorme. Et après, on sort cet album. Et l'album, on le sort à la MJC, on fait une fête, et puis après, on continue à tourner. Et là, on vend beaucoup d'albums après les concerts. Et le grand changement, c'est le moment où on se fait référencer à la Fnac des Halles.
C'est Bibou qui va à la Fnac des Halles et qui demande au vendeur de la Fnac de prendre des disques de Trio. Le gars dit non, ça m'intéresse pas, je connais pas et tout. Donc il dit, passe-le. Passe le disque, voilà, au moins écoute-le. Donc le mec passe le disque dans la Fnac et là Bibou vend trois albums devant lui. T'as des mecs, on le cherchait ce disque. Donc bingo, le mec dit bon, bah je vais t'en prendre une dizaine. Donc on se retrouve dans les ordinateurs de la Fnac référencés.
Et c'est là que ça a commencé.
Et
c'est
du cool. coup, bah là, Bibou reçoit des coups de téléphone de la Fnac de Toulouse, de la Fnac de Marseille, de la c'est Fnac de Lille. Alors qu'on n'y avait jamais foutu les pieds.
C'est qu'en fait, le fait d'avoir joué à Rennes dans les Cafcons, les gens, il y a ceux qui ont réussi à avoir la cassette après les concerts, mais les autres, ils ont entendu parler du groupe, donc ils vont dans la Fnac, vous connaissez pas Trio. Le mec, il regarde, il y a pas Trio.
C'est pas.
Voilà. Pareil, en Bourgogne, à Dijon. Pareil, dans certaines villes, très peu de villes, mais tu vois, quelques villes. Et à Paris aussi. Le jour où on a été référencé et qu'on est rentré dans, comment dire, le référencement de la Fnac, à ce moment-là, ça a été le début, parce que tout le monde s'est dit, ah, enfin, Trio est
le truc est disponible.
Voilà. Et là, on se voyait tous les mercredis, et puis on envoyait 10 CD à la Fnac de Rennes, 10 CD à la Fnac de Dijon, 20 CD à la Fnac de Déal, et puis la semaine d'après, bah, c'était la Fnac de Marseille, où on n'avait jamais joué de notre vie, qui demandait 5, et puis du coup, ça a fait comme ça, et on a vendu.
Vous avez fait un buzz.
On a fait un buzz, voilà.
Avant Internet.
On est le record de France d'autodistribution.
Avec
30 000 albums, je trouve, 20 ou 25.
Avec, Motivé.
Ouais, avec les motivés,
l'album Motivé. Pour rappeler aux gens, à cette période, on est dans le paysage musical français, c'est Motivé avec les Hebda qui arrivent sur le devant de la scène. On vient de sortir des boys bands où on dit c'est la mort de la musique. Ton invitation de Louise Attaque passe en radio et un énorme tube. On est pile à ce moment-là. On est au moment où Saint-Similia ont commencé déjà à avoir du succès, où Matmata ont déjà, je crois qu'ils ont sorti à peu près leur single à ce moment-là. On est dans ce truc-là. Et puis 30 000 albums, on a vendu 30 000 par nous-mêmes. Et au bout d'un moment, on a un énorme problème. On te raconte tout.
Ah, vas-y, raconte tout.
On a un énorme problème parce que les Fnac te payent longtemps après. Et il faut fabriquer des albums. Et 30 000 albums, il faut sortir de la thune pour fabriquer des albums. Et les Fnac ne te remboursent pas. Enfin, elles te payent, mais elles vont te payer dans 5 mois. Donc, on a un énorme problème de trésorerie avec Trio. Donc, on taxe les parents, les amis.
Bah,
mais oui, c'est important. On taxe tout le monde. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. On va même voir le dealer de la cité, tu vois, notre pote, parce que c'était le seul. Mais c'est vrai. On va même voir le dealer parce qu'on lui dit lui, il a de la thune. Non, mais c'est vrai parce qu'on n'avait pas le choix, tu vois.
Avec tout ce qu'on lui avait acheté comme bœuf, en même temps, il pouvait nous prêter un peu.
Et alors, on va le voir en disant, écoute, on peut plus là, on peut plus. On est à sec et en même temps, on a des demandes. Il faut qu'on fasse fabriquer des putains d'albums, quoi. Et donc voilà. Et c'est à ce moment-là. Donc c'est mortel. C'est à ce moment-là que le fait d'avoir vendu 30 000 albums, toutes les maisons de disques se réveillent en disant « Attention, il y a un groupe inconnu, on les connaît pas, on sait pas qui c'est. » Trio, surtout qu'on jouait très peu à Paris, quasiment pas. Parce qu'à Paris, ils payaient pas. Souviens-toi, les bars payaient pas à Paris. Donc nous, on allait jouer en province. Et là, toutes les maisons de disques ont commencé. C'est-à-dire que nous n'avons jamais démarché une seule maison de disques de toute l'histoire de Trio. Elles sont toutes venues nous voir. Et à l'époque, on les a toutes eues. Elles sont toutes venues nous voir en concert. Nous, on avait hyper peur parce qu'on voyait la maison.
Ils nous parlaient en kilos francs, on comprenait rien. On traduisait les kilos francs, tu sais, en camion 508 Mercedes. Tu sais, les travelers, quoi. Ça fait combien de camions, ça, et tout. Non, c'était incroyable. Moi, j'avais 3 CD chez moi à l'époque. En un mois, on sortait des maisons de disques avec des sacs entiers de CD. Je me souviens, chez Highland, j'étais reparti avec toute la discographie de Bob Marley. Enfin,
il nous filait
c'était
tout.
Le paradis,
ah ouais,
quoi. Et puis, alors, il nous draguait, c'était, le monde était à nos pieds, quoi. C'était un truc de fou. Ça nous a fait en même temps, hyper plaisir et en même temps très peur.
Qu'est-ce qui vous a décidé à passer le cap alors?
Alors en fait, c'est très simple. Nous, on vient de cette génération où on a vécu le grand succès de Mangez-moi, Billy the Kick. Mets de l'huile de Réglisse.
Je vais vous mettre quelques liens si vous connaissez pas parce que ça vaut la peine d'écouter si vous avez pas les refs.
Et en fait, tout ça, c'est des groupes de scène, c'est des super groupes qu'on avait vus d'ailleurs jouer. Et c'est des groupes qui avaient sorti des gros singles radio qui sont devenus des tubes de l'été. Et tous ces groupes qui étaient des groupes talentueux n'ont pas survécu. Parce que c'est l'époque où tout d'un coup l'été on sort un espèce de groupe de l'ombre, on sort un tube, le tube est bastonné et puis après le groupe s'en remet pas et voilà, c'est le cas. Et nous on avait très très peur de ça. Donc en fait, nous notre but c'était privilégier les 30 000 personnes qui avaient déjà acheté notre album, notre public qui était là déjà et être libre, ça c'était la condition, rester producteur, être libre totalement de tout ce qu'on voulait sur toutes les prises de décision parce que nous on avait toujours l'image on avait l'image du méchant producteur de la maison de maison de disque qui va t'obliger
à faire ceci. Qui est une image, alors faut, on crache pas dans la soupe parce qu'il y a des gens fabuleux dans les maisons de disques, mais qu'il y a aussi, il y a aussi de ça.
Mais bien
à
sûr.
L'époque, mais puis maintenant, la maison de disque qui t'oblige à faire des choses, ça existait à l'époque, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est quand même d'un commun accord, tu vois. Enfin, je trouve, t'as pu le. Il y a une époque où c'était très très dur. En effet, t'as des artistes qui étaient des procès énormes. Maintenant, tu vois, les procès à la MC Solar, Marc Gulez et tout, on a quand même vachement moins. Les maisons de disques, enfin, tu vois, elles ne forcent plus d'artistes.
Oui, alors après, attention, enfin.
Je pense aussi que les artistes, grâce à Internet.
C'est un débat, mais je pense que les maisons de disques sont très directives en termes artistiques.
Oui.
Il y a le business, il y a tout ça, mais il y a l'artistique. Y a qu'est-ce que j'ai envie de dire dans mes chansons? Comment j'ai envie de vendre ma musique et tout? Et là, je veux dire, il y a beaucoup d'artistes. Et qui te le disent, hein, quand tu parles avec eux, qui te disent, bah là, je suis pas libre de faire ce que je veux. Voilà. Donc, nous, ouais. Ça, c'est un truc. Bon, après, on va pas rentrer dans le débat. Mais ce qui est sûr, c'est que oui.
Nous, on avait en tout cas envie
la liberté.
Et puis voilà, on a tous les plus gros labels qui nous proposent des contrats. Donc, contrats de licence, pour expliquer aux gens. C'est-à-dire qu'on reste producteur de notre musique. Le disque nous appartient. C'est notre propriété. Et en même temps, la maison de disque s'occupe de distribuer l'album dans les magasins.
De le fabriquer. Plus ces problèmes d'avance d'argent. Et t'avances en plus de l'argent,
voilà.
Pour financer ta tournée, pour financer ta promotion. Donc tu te retrouves.
Elle s'occupe de la promo.
Tu te retrouves dans le confort, quoi, un vrai confort.
Et nous, on décide de signer chez Yélène Music, un tout petit label qui est le plus petit label de Sony Music, avec une nana, Patricia Bonto, qui connaît très bien le milieu associatif, qui n'a aucun groupe dans notre style, puisque elle avait Wayne & Jack et Massisteria dans son label. Donc des choses qui, dans les valeurs, ont un rapport avec Trio, mais qui artistiquement sont extrêmement éloignées. Et on signe chez elle. Et heureusement qu'on a signé chez elle, parce qu'on aurait signé ailleurs, je pense que la carrière de Trio aurait été totalement différente. Donc c'était un vrai choix à l'époque. Et avec Patricia, elle nous apprend à être libre, elle nous apprend à être fou, à aller vraiment au bout de nos idées. C'est elle qui nous dit, mais sur scène, pourquoi vous... Parce qu'on avait des plantes, nous, sur scène, à MC Le Frère, des plantes, cette espèce de grande plantation, la scène. Et c'est elle qui nous dit, mais attendez, mais... Ah, on avait du sable aussi, plein de sable. Plein de sable. Et c'est elle qui nous dit, mais franchement, prenez vos plantes en tournée, ça va être génial. Et pourquoi pas le sable? Bon, le sable, c'est trop compliqué, mais du coup, on a... Tu vois, non, mais une espèce de folie. Nous, on voulait pas passer en radio, alors que, tu vois, la maison, enfin, le Sony mettait quand même la pression. Elle disait, bah, écoute, on va envoyer l'album entier aux radios. Si elles veulent vous passer, très bien. Et puis, voilà, et puis on a fait cette espèce de bout de chemin avec Trio. On enchaînait les concerts comme des fous. On a joué dans des salles incroyables. On s'est retrouvé à faire des tournées avec Burning Spear. On s'est retrouvé sur des scènes immenses alors qu'on était des petits jeunes en pantacourt, bah à ouais, chanter
on
nos chansons.
Les vieilles charrues, le Bercy avec les festivals reggae, on découvre les zéniths.
Et on est à fond. Et c'est extrêmement fatigant, mais en même temps, c'est génial parce que c'est des périodes. Voilà, c'est des périodes où tu découvres ce milieu-là et puis tu te dis, putain, là, je suis en train de vivre mon rêve, quoi. Et à ce moment-là, on se dit, bon, ok, on abandonne. Moi, j'abandonne les études, j'abandonne le théâtre, j'abandonne. De toute façon, on n'a plus de choix. Tu n'avais
pas abandonné tes études jusque-là.
Non, moi, très tard.
Ok, d'accord.
J'ai abandonné mes études un an avant la signature. Même pas, je crois que c'est au moment de la signature que j'ai arrêté la fac. Et donc voilà, et là, on comprend qu'il se passe vraiment quelque chose. Et puis voilà, et puis les ça a duré. Ouais, oui, et puis on vend beaucoup d'albums, surtout. C'est qu'on vend beaucoup d'albums. Oui. On en a vendu à l'époque environ entre 400 et 500 000. Mais ce qui est fou, c'est que les 500 000 personnes qui achètent l'album sont persuadées d'être seules à l'acheter. Parce que ça passe pas en média. Donc c'est un truc, on a sorti un album qui s'appelle De bouche à oreille après. C'est un truc de bouche à oreille. Tu connais pas ce groupe, oh, regarde, écoute, tu vas voir, personne ne connaît. Et en fait, voilà, en fait, c'était dans les cours de lycée, c'était dans les milieux associatifs.
Et pourquoi vous vouliez pas passer en radio? Justement pour vous, en fait, est-ce que vous aviez déjà l'idée de, en fait, on veut pas passer à la radio parce que c'est un truc on n'a pas envie d'être.
On était un peu en mode punk à chien, j'ai envie de dire. La radio c'est de la merde, la télé c'est de la merde. C'était un peu cette idée-là. On avait peur, comme disait Christophe, du matraquage. Et puis on défendait le live. On disait, voilà, on est un groupe de scène, on va défendre notre album par la scène. Donc il y avait beaucoup de jeunesse et de ouais, on connaissait pas ce monde-là, il nous faisait peur et...
Il y avait ça, il y avait aussi le fait qu'on avait un logo. Tu vois, à l'époque, au même moment, t'avais les Louise Attack, tout le monde les voyait, ils faisaient des clips, etc. Nous, on avait un logo, les gens savaient pas, connaissaient pas la gueule qu'on avait. Il y avait ce côté-là. En fait, on était un peu les Daft Punk avant l'heure, on était précurseurs.
Comme les comédies musicales.
Ouais, c'est comme ça, les mecs.
Et comme Laurent Gérard.
On a tout inventé, tu vois.
Non, non, mais.
Le combat écologique, c'est nous.
Non, mais c'est vrai que le fait qu'on nous connaisse pas, qu'il y ait ce logo, je pense que ça joue aussi dans ce côté où on se disait, bah, tu vois, regarde, attends, quand tu vends T'imagines, nous, de là où on venait, etc. Quand tu te dis, putain, on était numéro 2 au top album.
Bah oui.
Tu vois, personne nous connaissait. On avait fait juste nulle part ailleurs. C'est la seule télé qu'on avait. On avait fait à l'époque. Tu vois, nous, on était fiers aussi. On disait, ah, attends, mais c'est génial. C'est quand même, il se passe un truc. Pourquoi on va se casser ce truc-là à essayer d'aller faire la pute chez machin ou chez truc et tout? Non, nous, on avait notre public. On était, mais c'était largement suffisant pour nous. Franchement.
Et puis, c'est classe, quoi. C'est classe de pouvoir, c'est quelle chance de pouvoir remplir des salles comme ça sans toute cette force des médias et d'avoir ce rapport direct avec les gens. Et la musique, voilà, c'était une force quelque part aussi qu'on était fiers d'avoir de porter notre groupe comme ça, voilà.
Et c'est ce qui fait que
et les gens aussi d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que quand 10 ans plus tard, l'hymne des campagnes est découverte par Énergie et sort, le travail est déjà fait et heureusement parce que si ça avait été le cas 10 ans avant, on en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc et le public l'aurait peut-être très mal pris parce que c'était à eux, comme disait Christophe, c'était leur groupe et tout. Si la radio s'en empare, attention, c'est plus. Moi, je me souviens de Renaud que j'adorais, que j'écoutais. J'ai eu ce même, j'ai eu exactement cette réaction-là en tant que jeune ado quand Renaud commence à se médiatiser et tout et que tout d'un coup tu dis putain, il m'appartient plus, c'est plus le chanteur qui est que à moi dans ma chambre.
Et limite, tu finis par le détester.
Et tu dis ouais, vendu. Ouais, tu viens là vendre des disques et. Et donc voilà, donc c'est aussi ça, ouais.
C'est notre histoire. Et voilà, donc premier album. Après, deuxième album, on se dit, tiens, on va rentrer en studio pour faire l'album, faut qu'il s'active. On sait pas ce que c'est que le studio. Donc on fait un deuxième album qui nous plaît, qu'on assume, mais qui est beaucoup trop propre parce qu'on connaît pas l'expérience du studio. Là, on comprend qu'on est vraiment un groupe de scène, qu'on n'est pas un groupe de voilà. Donc en tout cas à ce moment-là, mais on rencontre une troupe de cirque complètement folle sur la route. Toujours cette espèce de folie de se dire tout est possible. On part avec cette troupe de cirque, on leur propose de faire un spectacle de fou. On fait un spectacle qui coûte une fortune. On part sur la tournée. On part sur la tournée. On nous prévient, on nous dit attention. Vu le coût du spectacle et vu les nombreuses places vendues, on va perdre beaucoup d'argent. Nous, on se regarde. On avait vendu 6000 albums, ce qui représente en édition énormément d'argent. 600 000, ouais.
600 000, oui.
Ce qui est en édition.
Il n'a pas fait des études en maths. Hein,
non. Au niveau éditorial, ce qui représente beaucoup d'argent, il faut le dire. Mais en plus pour nous, tu vois, on en était. Et là, on se regarde. C'est un coup de folie, ça. Et là, on se regarde et on se dit, mais ça se compte pas en centaines de milliers d'euros, hein, le déficit. Hein. Et là, on se dit, mais attends, le spectacle, ça va être top. On part avec des gens du cirque, c'est top.
On s'en fout, on paye.
On s'en fout. En plus, on avait des gens du cirque Plume qui bossaient avec nous. On avait les arrosés. Et puis, c'était super.
C'était
et puis, on
s'est dit,
allez, on s'en fout. On y va, même si on est en déficit. C'est pas grave, on s'en fout. Et on part sur cette tournée. On perd énormément d'argent, mais artistiquement, on vit une des plus belles histoires artistiques de notre vie. En plus, à l'époque, ça se faisait pas du tout. C'est-à-dire que personne sur scène n'invitait, tu vois, des circassiens, oui, du visuel.
Là, vous aviez quoi? Vous aviez du tissu aérien.
Il y avait du tissu aérien, il y avait des scènes de feu, du jonglerie.
Il y avait des passings, des passings de jonglerie.
Il faisait de la planche coréenne aussi, c'est les planches des sauts.
Ouais.
Non, c'était un truc de fou, hein.
On a sorti le DVD après. Il se trouve que on savait pas, mais on a après le spectacle. Donc t'as pas énorme. Ça a marché, mais ça a pas assez marché vraiment sur la tournée. On a vendu un DVD après qui s'est énormément vendu parce qu'en fait tout le monde nous a parlé après de ce spectacle-là. Heureusement qu'on l'a fait. Et puis on était fous, c'est qu'on se dit attends, si on a plein de thunes au niveau éditorial, on a plus de thunes que ce qu'il nous faut, tu vois. Il y a un moment donné, c'est aussi pour ça, quoi, tu vois. Cet argent, il est fait aussi pour ça.
Ouais,
il est fait aussi pour
réinvestir,
voilà,
quoi.
Pour réinvestir dans des choses artistiques, des choses qui nous plaisent et puis être dans une folie. Donc voilà, donc on fait ce deuxième album, on fait le spectacle avec le cirque et puis là on continue et puis c'est à ce moment-là et après c'est grain de sable, c'est ça. Et là on rentre vraiment dans un truc
après,
de studio.
Grain de sable, il y a de la fatigue aussi entre nous.
Vous demander comment ça se
fatigue,
passe.
Il y a de la fatigue, un petit pseudo ras-le-bol de certains, envie de
Ah oui, c'est vrai,
c'est ouais, ce ouais, que là c'est pas le clash mais pas loin parce que on a fait 350 dates ou 400 dates en 2 ans, enfin
ouais,
c'est un truc hallucinant.
On a reçu un truc qui s'appelle le triathlon
et il avait
toutes les dates qu'on a fait en genre 2 ans et demi et tu vois le nombre de dates, tu fais fait c'est simple, on était le lundi le mardi chez nous et sinon on était en tournée
et encore temps, ouais moi je me souviens que ma femme venait d'accoucher et que j'ai dû voir mon bébé à l'accouchement et après je l'ai pas vu pendant 3 mois, un truc comme ça.
Non,
je pouvais même pas rentrer chez moi.
C'était complètement ouf.
Donc il y avait de grosses fatigues et tout. Et puis et puis aussi l'expérience du deuxième album qui était pas glorieuse en studio et tout. Donc remise en question un petit peu de la manière de travailler, cours de chant, rencontre avec Hélène Bowie qui est devenu notre coach vocal pendant des années, qui nous a fait un grand bien. Parce qu'il faut savoir que Manu et Daniel sont, on va dire, ont un cursus musical différent d'une autre. Peut-être, enfin, Mali a quand même pris des cours et tout. Moi, je suis très autodidacte. Je connais pas les notes que je fais à la guitare. Je puisse.
Joue à l'oreille.
Ouais. Et donc, Manu, qui est très exigeant, qui fait du jazz, qui nous demande vraiment expressément, dit les gars, c'est bien, on fait les clowns, on s'éclate et tout, mais faut qu'on fasse de la musique, faut qu'on prenne des cours de chant, surtout qu'il y a un album qui arrive, on a des capacités, faut les exploiter. Donc, rencontre avec Hélène Bowie, qui nous fait rencontrer un réalisateur, Dominique Le Dudal, avec qui après nous partirons sur, je crois, 4 albums, ensuite, ou 3 ou 4 albums. Et ça a été un gros déclic, ça. Ça a été, c'était une autre manière de travailler. On avait déjà des chansons et c'est un album qu'on a vraiment cuisiné ensemble avec Dominique, ensuite qui est venu faire les mix. Et
Dominique Le Dudal, c'est la première fois qu'on rencontre un.
Et qui a été un peu pour moi, enfin en termes artistiques, par rapport à Trio, notre deuxième vie. C'est-à-dire que là, on est avec un album. Le premier, bon, voilà, il est fabuleux, on l'oubliera jamais, c'est celui qu'on préférera toujours parce que.
C'est l'album de la spontanéité.
C'est l'album de
part,
la spontanéité enregistré dans un bar en Bretagne. Voilà, avec, t'entends les gens qui chantent dessus. T'entends déjà les gens qui chantent sur l'album. Là, on fait un vrai album avec un vrai réalisateur.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Et puis en plus, sincèrement, avec des très bonnes chansons. Quand aujourd'hui on vient piocher là pour fêter les 25 ans, on se rend compte que Mama Gubida et cet album-là sont il y en a d'autres, hein, il y a d'autres perles rares et d'autres belles chansons, mais voilà qu'un album complet. Et quand tu l'écoutes quasi du début à la fin, tu dis putain ouais, il y a des bonnes chansons dans cet album. Donc voilà,
vous avez changé un peu de façon de travailler, donc c'est pour cet album, c'est ça.
Ouais, un studio vraiment. Là, on découvre le studio, on découvre la magie aussi du multipiste. Et puis en même temps, on apprend aussi à se détendre, à garder notre spontanéité, parce que le deuxième album, si tu l'écoutes, bon, il y a des bonnes chansons dedans, mais c'est très plat. On a peur, on est là derrière le micro, on chante pas. Donc voilà, et puis on repart avec Bonto. On a un peu plus confiance en nous, on a un public qui est très en demande et tout, donc
qu'est-ce qu'elle vous apporte, votre coach vocal, vous dites
La coach vocal. Ouais.
Alors, elle nous apprend déjà à comprendre notre corps, ce qu'on appelle la colonne d'air, où arrive l'air, comment tu l'expulses, comment tu le gardes. Elle nous apprend aussi à former les sons et surtout à chanter dans la même énergie. C'est-à-dire que quand tu chantes à trois, s'il y en a un qui crie et l'autre qui fredonne, t'entends pas les voix. Alors que d'un coup, si tu fredonnes bien à trois et si tu cries à trois, alors là tu te rends compte de l'impact que peuvent avoir les trois voix. Elle nous fait prendre conscience à la fois de notre propre voix mais de la puissance de nos trois voix.
Ok.
Et on se rend compte qu'on a un atout monstrueux. Moi je on a des timbres de voix très différents. Et Christophe et moi d'autant. Manu est un peu passe-partout. Manu, c'est un imitateur un peu. Il va pouvoir aller imiter Christophe, il va pouvoir aller imiter un Québécois, il va pouvoir aller imiter. Et nous deux, on a vraiment, je pense, une tessure de voix très particulière. Christophe avec cette voix un peu à la Higelin, un peu raillée comme ça. Et moi qui vais un peu dans les créneaux jamaïcains, black, ça chante un peu du nez. Et voilà, et on découvre nos trois voix et on s'éclate. Et puis on bosse le chant pour la première fois. Et donc voilà, on est super bien entouré avec Bonto, elle a plein d'idées de marketing.
Il faut que tu parles dans le micro, il s'emballe.
Il part.
Elle a plein de... Bonto, c'est Patricia Bonto.
Patricia Bonto. Donc voilà, qui nous sort plein d'idées pour sortir l'album. On fait beaucoup de ce qu'on appelle le street marketing à l'époque. On distribue des petits tickets de métro avec la date du prochain concert. Enfin, voilà, et on repart dans un truc de fou avec une tournée... tournée de dingue.
Ouais,
grande plus grosse tournée.
Grande trab, ouais. C'est puis grosse tournée, puis là pour le coup, grosse tournée qui fonctionne vraiment.
Fonctionne.
Et puis tournée des ennemis.
On paye nos dettes.
Ouais. Et puis, non, là c'est vraiment. Et puis on se rend compte que là, il se passe. Là encore, de prise de conscience, comme il dit artistiquement, il se passe un truc. Et puis les chansons de Grain de Sable sont hyper importantes. C'est là où tu vois où t'as Pompe Afrique, c'est là où t'as Serre-moi, c'est là où t'as toi et moi. Non, c'est non. Après toi et moi. Non, c'est un des albums, ouais, des albums un peu phares aussi, tu vois. On est plus professionnel, quoi, on va dire, vraiment à ce moment-là. Et puis on vieillit aussi.
Et ça change quoi le fait de vieillir ?
Bah, disons que dans l'écriture, déjà, ça change, parce que du coup, ton écriture, elle s'affine.
Moi, en ce qui me concerne, je suis papa thématique. depuis 3 ans. Donc, ça influence énormément les chansons. Pour moi. Dans l'écriture et tout, tout de suite, là, quand un enfant arrive dans ta vie, et quand tu essayes d'écrire un peu ce que tu vis au quotidien, forcément, l'enfance apparaît. Voilà aussi dans l'écriture.
Et voilà, et puis et après, qu'est-ce qui se passe après ce que... Ah ben non, et c'est là où on arrive aux 10 ans. C'est après ce que... Non,
c'est... Si, ouais, c'est ça. 2003, on sort Grains de Sable.
On sort, voilà, on
et
sort Grains
de
Sable.
Et suite à la suite de cette tournée, on décide de fêter les 10 ans de trio. C'est à ce moment-là qu'Énergie, on va chez Sony parce qu'on nous remet un disque de diamant. Donc un disque de diamant, c'est 1 million d'exemplaires vendus. On va très rarement dans la maison de disques, à part dans le petit bureau de Patricia Bonto, qu'on aime, qu'on chérit, où on squatte, petit fief. On va rarement dans la maison de disques. Là, on y va, on vient chanter l'hymne. Ouais. Et il y a le programmateur de la radio d'Énergie qui est là, qui découvre l'hymne des campagnes, qui découvre Trio, qui c'est quoi ce groupe qui a vendu 1 million d'albums, je connais pas et tout. Qui décide le soir de diffuser l'hymne des campagnes, donc sur Énergie. Et là, c'est le standard téléphonique qui se fait... prendre d'assaut et le gars qui décide de rentrer Trio en force. J'ai pu 7 ou 8 rotations du morceau par jour sur Énergie.
6 passages jour, c'est le maximum.
À l'époque, c'était encore plus que ça. Parce que maintenant, ils ont des quotas, mais à l'époque, je crois que c'était un truc de dingue. Mm-hmm. Et à l'époque, en plus, c'est Énergie qui faisait vraiment la pluie et le beau
temps. Ah oui.
Donc Énergie rentre, tout le monde rentre. Donc on se retrouve du jour au lendemain.
Partout.
Partout sur les radios.
3 mois après, on était le titre le plus diffusé en France.
Et puis on clipe ce titre avec nos amis de Greenpeace. On se dit tiens, il y a une fenêtre de tir. On commence à avoir une grosse conscience sur l'écologie, sur ce combat. Rencontre avec Greenpeace à l'époque. On commence à faire venir Greenpeace et les stands de Greenpeace sur nos concerts. Et donc avec nos amis de Greenpeace, on décide de faire un clip très fort que tu as peut-être vu sur les réseaux, voilà, et voilà qui montre la violence de notre impact sur la planète. Et puis on fait une tournée hallucinante parce que là on s'ouvre à un autre public encore, des gens qui
quand ça c'était en 2005, c'est ça?
C'était 2005, ouais.
2005, c'était
là aussi
ans.
Vous êtes précurseur sur l'environnement.
Sur l'environnement,
c'est,
ouais,
c'est
bah,
marrant. C'est...
Non, mais c'est aussi non, marrant, on en parlera tout à l'heure.
Ouais. Bien sûr, ouais, mais ça fait partie, de toute façon, on va être obligé d'en parler parce que ça fait vraiment partie de notre histoire.
Ouais, bah oui.
Mais on se retrouve dans des salles, on était déjà dans des zéniths quasi complets, on va dire, et là, ben, on finit de remplir tous ces zéniths avec la radio, avec tout ça. On fête nos 10 ans.
Il faut dire aussi que.
On fête nos 10 ans, vraiment, on se fait plaisir avec des invités, avec une scénographie.
Il faut dire aussi qu'il y a une nouvelle équipe, c'est-à-dire qu'on passe sur Énergie. Patricia Bonto, dont on parlait, qui a été la signature, juste avant nos 10 ans, se fait virer de chez Sony Music. C'est à ce moment-là. Elle se fait virer de chez Sony. C'est très douloureux pour nous parce que là, on se dit mince, la personne qui nous a tout appris, tout d'un coup, se barre. Et en plus, se barre dans des circonstances un petit peu dures, quoi. Donc, voilà, elle part avec un beau chèque, mais elle part dans un contexte un peu difficile et on se retrouve tout seul dans cette grande maison de disques avec des personnes qu'on connaissait, mais avec qui on pensait en tout cas ne pas vraiment avoir d'affinité. Il se trouve qu'à ce moment-là, je sais pas s'ils sont pour quelque chose, le coup d'Énergie, parce que non, même eux, c'était les premiers étonnés. Et voilà. Et comme à ce moment-là, on est diffusé sur Énergie, il se trouve qu'eux, ils sortent la grosse artillerie parce que ça, ils savent le faire, Sony. Autant tenir le chevaux, tu vois, retenir, ça, c'était très dur. Mais par contre, autant quand il faut y aller, il faut y aller. Donc là, il lance quand
même. Il dégaine, ouais.
Il dégaine à cause de pub télé, etc., avec notre accord, toujours à chaque fois. Et voilà. Et donc voilà, comme il disait, bah, les 10 ans, tournée énorme. Le trio passe à la radio. Premier single, l'hymne de nos campagnes, énorme. Deuxième single, Désolé pour hier soir, énorme. Troisième single, je me souviens. Non, Serre-moi qui est un peu passé en radio, mais un peu moins que les autres. Serre-moi. Et à ce moment-là, on s'arrête.
Ouais.
Et à ce moment-là, on s'arrête parce que voilà, c'est énorme. Et là, on part sur des projets différents. Moi, c'est à ce moment-là que je me remets au piano. J'écris des morceaux au piano. C'est pendant cette période-là, en fait.
Ah ouais.
C'est juste après la tournée des 10 ans. Donc, Trio passe en radio. Moi, je fais ma tournée sous mon nom, voilà, Christophe Mali. Je fais mes trucs au piano. Toi, à ce moment-là,
moi, je suis embarqué au Niger, moi, par Farid Merabet, François Bergeron, que je rencontre avec les Berruriers Noirs. Au Québec et qui m'emmène rencontrer un artiste Abdallah Oumadougou qui est décédé au début du mois, qui va nous manquer, un très grand musicien Touareg. Donc je pars à la rencontre de cet artiste avec Daniel Jamais, guitariste de La Mano Negra, avec Amazir Kateb, le chanteur de la Gnawa Diffusion, et puis un élève de Didier Locoud, un violoniste, voilà, rencontré donc les musiciens Touareg, et on monte un projet des Airs Rebelles, où on va jouer de la musique, on fait un film, enfin toute une aventure comme ça. On avait besoin,
on avait vraiment besoin d'aller
faire autre chose. Et puis on est trois auteurs-compositeurs dans Trio, on est deux surtout principaux avec Christophe et moi, et on a aussi besoin à un moment donné de prendre confiance en nous, sans l'autre, et de se dire bah attends, moi aussi je peux faire des chansons.
Ah oui. D'exister individuellement,
se rassurer aussi par rapport à ça. Donc voilà, on va faire nos expériences.
Non, moi pas me rassurer, moi j'ai jamais douté.
Mais toi, tu
parce que moi je suis un précurseur.
Mais ouais, t'es un précurseur et puis t'es en béton armé comme mec.
Voilà, donc on fait ça et puis ça dure quand même, c'est une pause qui dure deux ans et demi.
Ouais, une grosse pause, ouais.
Et là, on se dit, bon bah on va repartir avec Trio. Et
regardez un peu comment la réunion se fait en fait.
Comment on se retrouve?
Vous gardez contact encore?
On va se voir. Moi, je vais voir les Airs Rebelles. Et puis voilà.
On va se voir. Bah, Christophe fait son projet solo. Moi, j'ai été le voir quand il est passé dans Rennes.
On
se téléphone, on se parle. On gère tout avec Trio. Donc forcément. Il y a quand même des ventes de disques, des trucs à gérer, des demandes, des
sollicitations. Si on passe à la radio à ce moment-là, tu vois.
Oui. Et des sollicitations aussi par rapport à des concerts de soutien, on est très très sollicité depuis toujours avec Trio sur le monde associatif. Donc plein de choses. Et puis à un moment donné, si je me remets dans l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as beau aller vivre des aventures extraordinaires en fin fond du désert, faire des concerts incroyables avec des gens dont t'aurais pas imaginé, la Mano, des choses comme ça. Au final, tu fais putain Trio quand même. Ce qu'on vit avec Trio, je vois pas où ça te manque. Tu dis ça te manque, puis t'as des chansons, tu commences à réécrire des chansons et tu penses tout de suite à Trio, tu dis ah là j'ai un truc, c'est pour Trio, et voilà, et on se revoit en se faisant écouter des chansons, il me semble.
Voilà, on se revoit dans un studio, c'était au Mans, et puis c'était au Mans, et puis là on se voit, et on se restructure aussi en interne, parce que là on se dit oulala, mais on est tous les quatre, et tout, c'est ça aussi, hein. on est tous les quatre avec Bibou, le manager, jusqu'à maintenant c'est moi qui manageais avec Bibou, là on se dit non, il faut qu'on s'épaule, parce que le milieu de la maison de disque, enfin le milieu du disque est quand même un milieu assez brutal, et Patricia vient, s'est fait virer, on a cette grosse maison juste en face de nous, donc là on se dit on va trouver un manager. Donc on fait un casting de manager, un truc de fou. Et là on choisit le manager, le gros cadre du management, puisque c'est le mec qui a dirigé Polydor pendant des années, qui a été à la tête de BMG pendant des années. Donc le mec, voilà, Bruno Gerantes. Et on part avec lui, on se fait écouter des morceaux. Donc là on sent notre cahier avec Guise et puis on chante les morceaux. C'est là où je vous ai chanté Ceux que l'on s'aime, qui était un peu la chanson un peu des retrouvailles de Trio. C'est la thématique de
Trio. C'est là on retrouve le titre Abdallah, justement.
Voilà où il y a Abdallah. C'est là où il y a Toi et moi. C'est là où il y a tous ces titres-là. Et puis, on enregistre l'album. Donc, toujours avec Dominique Lodudal, toujours la même équipe, parce qu'on est fidèles et que ça se passe bien. Et puis là, par contre, la maison 10, c'est la première fois là qu'on sort un album et que la maison 10 vient nous voir en disant bon, pour écouter à la recherche du single. C'est la première fois. En disant bon, maintenant vous passez en radio. Parce que bon, nous, voilà, c'est les radios qui ont choisi de nous passer. Nous, on n'a jamais dit. Et là, c'est la première fois qu'on se retrouve avec des gens qui nous font bon, alors on vient parce qu'on va lancer un single avant la sortie de l'album. C'est quoi le single? Tu te souviens, hein? Et voilà. Et ça, on n'a jamais eu cette problématique avant. Mais c'est une chance inouïe en plus de 10 ans d'avoir pas eu cette problématique. Et donc voilà, ils écoutent Toi et moi. Ils écoutent Toi et moi. Ils font ah, mais puis là, on était tous d'accord. En disant voilà, s'il y a un titre à ressortir, c'est sûr. Enfin, à sortir qui sort du lot et tout, c'est Toi et moi parce qu'il y avait un vrai truc dans ce titre-là. On le clip. Gros carton radio, génial. Et là, c'est parti. Tournée des Zéniths dans la ligne des 10 ans. Tournée des Zéniths. Blindé. Même il y a des Zéniths qu'on est obligé de revenir deux fois.
Merci.
Bercy, fou. Bercy, on a fait un Bercy. On n'a pas juste fait la scène, tu vois, comme tous les jeux, l'artiste qui font donc la scène au fond avec les gens. Non, non, là, on avait la grosse scène, on avait une scène à l'autre bout de Bercy, et puis toute la fosse était entourée, t'avais une espèce de proscenium qui entourait toute la fosse comme ça. Donc on courait, il y avait plein d'invités,
On a invité des écoles de samba parisiennes, on a des circassiens, il y avait tout.
Non, mais c'était n'importe quoi, on a fini, on était 90 sur scène, quoi. Donc, non, encore une fois, tu vois, cette espèce de folie de se dire. C'est ça, normalement, Bercy, tous les artistes le font, c'est là qu'ils se font de la thune, c'est en se faisant Bercy.
Nous, on perd du blé, nous.
Eh ben, nous, on perd du blé sur Bercy, tu vois. Et on est les rois. Et là, on va refaire Bercy, là, le 13 mars, ça va être la même chose. On va pas gagner une thune. On va gagner nos cachets, tu vois, genre. Ouais. Mais on va faire aucun bénéfice. Mais on s'en fout parce qu'on est là pour s'amuser, on est là pour ça. Et donc voilà, donc, grain de sable, passage, grosse tournée des festivals magnifiques.
Ouais, c'est le moment. Belle retrouvaille aussi, vraiment. humaine où on s'éclate, on se fait plaisir, c'est comme au premier jour et tout. Moi, j'ai un souvenir de cette tournée où on rigole beaucoup, on est dans la bonne humeur, il y a pas de stress et ça se ressent aussi sur scène et tout, donc. Éclate, quoi.
C'est là où l'été on nous propose des trucs de fou, genre l'anniversaire des Francofolies de La Rochelle, où on nous propose d'être les maîtres de cérémonie. Donc là on se retrouve à fêter les 20 ans, je crois que c'était les 20 ans des Franco, et là on anime donc une soirée, donc on fait notre concert et après on anime une soirée avec Morane, Diams,
Jean-Louis Aubert,
Souchon, Jane Birkin, Arthur H, Carmen Maria Vega, enfin tu vois, un truc vraiment vraiment
les
fou.
Ogres,
vraiment un moment vraiment incroyable. Et puis voilà, et puis après on est parti sur l'album suivant qui est
La Dit La Fée.
Et là, c'est le moment où Patricia Bonto, qu'on suit toujours.
Donc là, c'est 2012 là, c'est ça?
Ouais, 2012. Patricia Bonto a monté son label, La Dit La Fée justement, et elle a atteint un cancer. Et voilà, et donc je lui écris cette chanson, La Dit La Fée, qui devient un hommage. Voilà, qui est un hommage à cette personne. Elle décède et on décide d'en faire une force. Et donc on sort l'album La Dit La Fée, qui est encore un hommage à l'enfance aussi, parce qu'il y a ses enfants qui sont sur la pochette. Et puis pareil, tournée, quelques passages radio, mais là les radios jouent un petit peu moins, mais on s'en fout parce que notre public il est là, quoi. Et c'est dans ces moments-là, c'est à ce moment-là, La Dit La Fée, tu te dis putain, t'as un public de fou, quoi. C'est que le public il est là, on s'en compte que c'est extrêmement solide, et qu'au fil des années, nous on vieillit, mais notre public vieillit pas. Là on commence à se le dire parce qu'on se dit mais attends, c'est fou, il y a ceux qui grandissent avec nous, mais il y a encore plein de jeunes qui sont là, et on se dit ah ouais d'accord. Et nous on a toujours été attirés par justement cette jeune génération dès le début, hein, dans nos concerts, les premières parties, quand tu vois que nous au début on a fait les premiers concerts de Camille, de Pauline Croze, de d'Olivia Ruiz, de tous ces artistes là qu'on a vu au tout début.
Tété,
le premier concert de Tété c'était avec Trio aussi, tu vois, tous ces artistes, on les a, voilà, cette nouvelle génération, c'est vachement important.
Parrainé quelque part, c'est ça?
Comment?
Ouais. Vous les avez parrainés?
Bah, La Rue qui est à nous, disons, on les a vraiment produits.
Ouais, La Rue qui est à nous, on a produit les deux
mais
albums.
Mais c'est vrai que je me souviens d'un Cabaret Sauvage où, avant que ça soit là, tu vois, le grand truc des nanas dans la musique, t'avais pas de nanas dans la musique, on avait fait Cabaret Sauvage, et c'est moi qui avais l'idée, d'ailleurs, je vous avais dit, j'ai fait, les gars, on va prendre que des meufs. Tu te souviens? Que des meufs en première partie. Et tu sais quoi, aujourd'hui ça paraît, mais à l'époque, c'était pour trouver de la chanson et tout, c'était dur. Et on avait reçu plein de cassettes.
Et là, d'ailleurs, on a fait venir Camille.
T'avais Camille, et Pauline Croze, Émilie Loiseau, avant qu'elle soit, que personne ne les connaisse. Ouais. Camille n'avait même pas sorti son album. Mmh. C'était le tout début. Et il y en avait une autre, c'était, donc Olivia Ruiz aussi, elle sortait tout juste de la Starac. Moi, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu traînes avec cette nana? Attends, elle sort de la Starac. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais vous allez voir, cette meuf, elle va sortir un album, elle a un vrai truc et tout. Et d'ailleurs, t'en avais d'autres et tout. Non, mais pour dire que le rapport à la jeune génération a toujours été extrêmement important pour nous, que ce soit par rapport à notre public. En rigolant, là, on dit ça en ce moment. On dit, de toute façon, le jour où il y aura que des gens de notre dans le public, on sera mort.
Bah oui,
et c'est vrai, parce que tu vois, si les gens ils vivent,
c'est
avec
marrant,
nous, non mais ils vivent avec nous, c'est sympa de vieillir avec les gens. Mais nous, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est quand tout d'un coup tes mots ils résonnent à une nouvelle génération, et puis quand tes thématiques tout d'un coup elles sont prises et tout, c'est là où c'est. Donc voilà, c'est une manière rigolote de.
Et c'est la période aussi où on en a. Moi, je fais partie de ces musiciens où je dis, on a fait le tour à quatre, les trois guitares, les percus. Venez, on invite des musicos à jouer avec nous. Donc on ouvre à la section cuivre, on ouvre aux cordes, la rencontre avec Frédéric Deville au cello, la section des cuivres des Mister Gang qui vient nous rejoindre sur des concerts, et on réarrange les morceaux avec des, voilà, on y met de la couleur, on invite Pablo Mendes à venir faire de la basse, on recolorise un peu le trio, et on se fait aussi plaisir à ce niveau-là. Et ça a été une période qui a duré quand même, sur les deux tournées, ça a commencé un peu sur Grain de Sable. Et là, vraiment, on décide de partir avec des musicos sur scène avec nous. Et donc, on se fait toute cette tournée avec des musiciens qui nous accompagnent. Et tournée suivante, d'ailleurs, aussi, où, par la suite, on continue.
Bah, non-stop, hein, après, on décide toujours d'être avec
Musiciens. Après, on a eu du mal presque à revenir tous les quatre. Il a fallu l'album d'après.
C'est moi qui avais du mal,
ouais. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai,
je disais, mais.
Tu disais, mais attends, non, mais à quatre, ça va être tout naze.
Ça va être tout naze et tout. Qu'est-ce qu'on. C'est bon, on a fait le tour et tout. Et puis au final, on décide de faire cette tournée à quatre qui nous a remis...
En Allemagne,
ouais.
Dans des petits clubs, pour aller voir un nouveau public, pour reprendre... comment dire, se remettre vraiment dans les petits cafés-concerts, tu vois, le truc vraiment qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait en France, avec l'accueil qu'on peut avoir en France. Et... Et voilà, et puis on se dit, mais attends, mais c'est génial à 4, parce que du coup on se retrouve, ouais. Et puis du coup on repart sur un album plus à 4.
Et du coup on retrouve aussi tout le côté de théâtre que Christophe, on se cache moins derrière les arrangements et on fait. Et ça déconne quoi. Et ouais. On retrouve Trio qui communique avec les gens, qui déconne, qui sort des blagues, qui se chambre entre eux. C'est aussi beaucoup de ça, de Trio, un concert Trio, c'est pas que de la musique. Il y a tout ce qu'on appelle les chapeaux, ce qui se passe entre les morceaux. Ouais. Et donc, il y a un vrai plaisir. Et du coup, on fait notre tournée à quatre derrière. On décide de refaire des théâtres et de se retrouver tous les quatre et de faire l'album suivant tous les quatre. Voilà, de retourner aux sources, entre guillemets, à la genèse du truc. Donc, qui donnera l'album. Bah, on fait l'album de reprise.
Bah, c'était à la suite de ça.
C'est à la suite on fait une tournée à quatre. Pendant cette tournée, on enregistre l'album de reprise.
Voilà, on enregistre pour se faire plaisir, en fait.
Voilà, on fait hommage à nos pères, à ceux qui nous ont donné envie d'écrire des chansons. Et puis, on repart donc sur l'album suivant qui est
Vent debout. Et on arrive à Vent debout. Et Vent debout, c'était notre dernier album avant cet album-là.
Tout à fait.
Et il y a un truc dont on a balayé 25 ans. Après, on va parler de l'album d'audio. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que on a une chance inouïe. T'as vu, on est bavard. Hein.
Mais j'adore.
Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé. C'est que ça, c'est tout ce qui se passe en France. Parallèlement à ça, il y a la chance de Trio de nouer une véritable relation avec le public québécois. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes français vont jouer au Québec, mais la plupart des artistes, ils viennent, ils font Montréal, une date, ils font Québec, une date, ils vont à la rigueur à Chicoutimi parce qu'ils apprennent que à Chicoutimi, il y a 99% de meufs et 1% de mecs, donc ils disent, ça doit être un peu sympa d'aller voir Chicoutimi. Donc ils vont à Chicoutimi. À la rigueur, ils font un concert à Trois-Rivières, mais ils se rendent compte que c'est un peu loin. Et pour peu que ça soit l'hiver, ils caillent et ils rentrent à Paris. Et c'est vrai que nous, quand on a eu un rapport complètement différent avec le Québec. Quand on partait en tournée, on a fait vraiment des grosses tournées là-bas. On allait jouer dans l'équivalent, là-bas, le lycée et la fac sont un peu mêlés. Ouais. On appelle ça les cégeps. Et nous, on tournait dans les cégeps. On s'est fait des grosses tournées. On s'est fait des tournées même en hiver à moins 40 et tout. Et donc ça, c'est une vraie chance. Et la deuxième chance, on va peut-être pas entrer dans le détail, mais de manière un peu générale, c'est que Trio étant une musique que les gens s'approprient énormément, à chaque fois qu'on partait à l'autre bout du monde, que ça soit en Amérique du Sud, que ça soit, tu vois, bah, on a fait le Chili, on a fait partout Soudan. Au Soudan. Bon, au Soudan, c'était plus confidentiel par rapport au public, mais c'est vrai que partout où on va, t'as toujours une communauté française qui est là et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on vienne jouer. Il y a toujours des lycées français ou des gens qui sont francophiles, donc qui apprennent le français. Et les profs de français, souvent, prennent des chansons de Trio à travers la chanson. Donc à chaque fois, et ça c'est une chance inouïe parce que il faut le vivre pour le croire, que tu te déplaces dans un pays et que tu dis putain mais c'est génial avec Trio, on pourrait aller demain aller jouer à Los Angeles, tu vois, on fait une salle de 200 personnes, elle sera remplie parce que il y aura toujours des gens qui nous connaissent là-bas. Et ça c'est un plaisir quand tu vas à Buenos Aires et que t'ouvres une date et que la date elle est complète, on t'appelle, on dit mais la date elle est complète, vous pouvez pas jouer deux fois dans la même journée.
On a fait ça dans les trois pays d'Amérique du Sud.
À chaque fois, on a doublé les concerts. Tu doubles, tu joues à 16h et puis tu rejoues le soir et au public tu demandes, tu fais mais les Français levez la main et tu dis ah ouais il y a des Français mais en fait non, et alors les Argentins levez la main et tu te rends compte qu'il y a un vrai mélange, ouais. Donc tu dis ah ouais d'accord, donc ta musique elle te permet de voyager et ça c'est un truc génial et qu'on n'a pas assez fait parce que mon
la première fois que je prends l'avion dans ma vie c'est Trio, hein.
Ah ouais,
non mais ouais, le premier décollage dans un avion c'est la Réunion en 99.
Toi, tu
j'étais jamais parti de. Je connaissais la Bretagne et la région parisienne, moi. Hein, tu
veux dire que t'es allé à Rennes à pied?
Oui. J'étais en stop, quoi.
Ah ouais.
Mais 25 ans plus tard, t'arrives encore à découvrir des trucs.
Je savais pas que la première fois qu'il avait pris un avion, c'était avec Trio. Bah, je me souviens pas du premier avion qu'on a pris.
Je me souviens très bien, c'est la Réunion. Ouais.
Ouais, c'est la Réunion.
En 99, on part à la Réunion. Et en plus, moi, je suis d'origine réunionnaise et je découvre en plus ma famille réunionnaise que je connais pas.
T'es d'origine réunionnaise?
Celle-là est très bonne. J'aime beaucoup. C'est de l'eau que tu bois.
C'est fou, ça.
Parlons de cet album que vous sortez là pour les 25 ans. Alors, ce que je trouve génial, c'est que vous avez réussi encore une fois à renouer avec des jeunes artistes qui touche aussi un public encore plus jeune. Et donc, en fait, vous allez vous faire découvrir, là, parce que j'ai vu que vous faisiez notamment un titre avec McFly et Carlito, qui sont... si vous connaissez pas McFly et Carlito, faut sortir un peu, mais en gros...
je sais pas s'il faut sortir, parce que vous les croiserez pas dehors. Hein. Et pour le coup, au contraire, restez chez vous et regardez Internet pour McFly et Carlito.
Voilà, ils ont 5 millions d'abonnés. C'est un peu c'est le duo qui est monté là, ces deux dernières années, et qui sont suivis par tout un tas d'ados, de lycéens.
Mon fils de 14 ans, quand je lui ai dit qu'on faisait un feat avec eux, il était fou. Ah bah, il était complètement fou. Ouais.
Oui. Comment c'est quoi en fait qui vous donne envie de vous dire tiens en fait on va aller chercher les mômes là
Écoute sincèrement c'est que des rangs.
Ouais, ouais. C'est pas des mômes. Hein.
Bah, ils ont 30 balles, c'est des mômes par rapport à vous.
Ah bah attends non, bah pas comme ça finalement.
En fait c'est
non, je veux dire ils ont plus de 30 ans.
Ils ont 32.
Ah bah 32 ouais. Ils ont 10 ans. Ouais c'est ça, c'est pas des mômes, ils ont 30 ans.
C'est des gamins, je te dis.
C'est ça.
Non mais en fait tout ça part vraiment que de rencontres, même cette jeune génération, on a la chance nous d'avoir alors rencontré nos pères, d'avoir rencontré Renaud, d'avoir rencontré Lavilliers, Thiéfen, avec qui on a des vraies histoires artistiques et tout, toute la génération aussi de nos amis, on parle de la rue Quétanou, des Sin Semilla, des Massilia Sound System, des Dubbing, de Tiken Jaffa Coli, M, Mathieu, ouais, qu'on connaît, avec qui on a commencé en fait, nos histoires se croisent,
bah oui,
les festivals, et toutes ces jeunes qu'on rencontre, Big Flo et Oli, moi je les rencontre sur un festival, j'étais avec un autre projet, mais bon, peu importe, et ils viennent voir... et puis c'est même moi qui vais le voir, je dis je pourrais avoir une dédicace, mon fils je connais pas, je venais de voir leur concert, je dis les gars c'est enfin un bon hip hop intelligent, j'apprécie réellement le truc, ouais. Je dis ah c'est cool, ils sont pas là en train de entre guillemets, hein, je mets des guillemets parce que c'est un peu sauvage ce que je veux dire, mais de niquer des meufs et de vendre des bagnoles, et ils font un hip hop intelligent, je leur dis, ils font mais tu sais mes trios on vous connaît, on commence à et hop, on se revoit une fois avec trio très peu de temps après. Ça sympathise avec les gars, Christophe, bingo, ça sympathise, et ça finit sur scène. C'est-à-dire qu'on fait un feat avec
direct
eux, direct le soir, et hop, ils montent sur scène. même chose avec Vianney au Paléo Festival, il y a 2-3 ans, on va le voir l'après-midi, on lui dit, écoute, on adore ce que tu fais, on trouve que t'es plein de talent, et voilà, on voulait te le dire, il fait mes trios, les gars, mais je connais, et il y a une chanson, alors je l'ai chantée, Serre-moi, et hop, il vient sur scène le soir devant 40 000 personnes avec nous, chanter le truc, et ça a été que ça, KPO, ses rencontres sur une promo. Et moi j'avais écouté, on l'avait tous écouté d'ailleurs, parce que c'était un peu incontournable, L'Homme Debout, ouais. Et pareil, je vais le voir, je dis ça fait du bien d'avoir un peu des morceaux qui ont du sens, sociétal, en radio, ouais. Bravo pour ce titre, oh, les trios, nanana, on sympathise, un mec extrêmement gentil, ouais. Donc on l'invite après au Cirque d'Hiver, faire ouais, le jam avec nous, enfin voilà.
C'est des rencontres.
Et du coup quand on fait cet album des 25 ans, on liste un peu les 25 années de rencontres, on se dit on veut faire des duos, on veut inviter d'autres artistes, donc on fait notre liste idéale, on se dit la liste de rêve. Donc c'est celle qui est sur ce disque, quasiment, à une ou deux personnes, exception près, qui n'ont pas pu y participer. Et en fait, on se dit, bon, bah sur les 20, 21 qu'on a branchés, il y en a bien une dizaine qui vont répondre présent, on va pouvoir faire un album. Il se trouve que tout le monde nous dit oui, et notamment toute cette jeune génération. Et c'est là, donc ils viennent faire leur duo, et on les attrape sur l'hymne des campagnes. On se dit, ça pourrait être sympa que cette jeune génération vienne chanter l'hymne, vienne porter ce combat écologique. C'est aujourd'hui la jeunesse qui a repris le flambeau de l'écologie. On le voit avec Greta qui vient se battre. Et tous ces jeunes qui regardent les anciens en disant, vous êtes déconnectés les gars, nous on sait et tout. Donc,
ouais,
de les avoir.
Vous nous avez bien niqué la planète avant, donc maintenant, deux
c'est
secondes.
C'est ça, fermez-la un peu. Ouais, agissez, taisez-vous. Ouais. Arrêtez de blablater. Exactement. Et donc voilà. Et dans la même un peu, avec une énorme bienveillance, mais aussi avec un vrai plaisir sincère, ils nous font mais l'hymne, mais bien sûr. Donc Vianney pose son petit bout de phrase. Chacun vient. Ils connaissent le morceau par cœur. La plupart, Big Flo et Oli, pareil, il n'y a pas de problème. On y va. Et ça lui donne une jeunesse tout à coup au titre. Et en plus, c'est quand même des artistes extrêmement tous brillants, mais aussi marketés pour le coup. Et donc, en plus, du coup, la radio, boum, rentre dedans. Donc, sa troisième vie pour l'hymne des campagnes, qui ressort comme ça avec toute cette jeunesse. Et donc, on est comblé. Et puis, alors, pour sincèrement, bon, de rencontrer Renaud, tout ça, c'est un rêve. Mais alors, d'avoir des jeunes artistes aussi talentueux qui viennent te voir et qui te disent, tu fais partie de mon ADN. Je pense que, entre guillemets, pas que toi, mais tu fais partie de ma route. Et si j'avais pas croisé à un moment donné Trio, ben, j'aurais pas fait ci, ou j'aurais pas fait ça. C'est extrêmement touchant, valorisant, et ça te met une énergie, un truc. Le plus beau cadeau d'anniversaire de cet album, c'est peut-être toute cette jeunesse. Au-delà, bien sûr, alors, bon, ici, Véronique Sanson, des Renault, des trucs, c'est magique, mais c'est le plus beau cadeau. Je crois que c'est toute cette jeune génération qui a pas peur de venir avec Trio et qui nous prend pas pour des has-been, et on est ravis, quoi. Voilà.
C'est parce cool. qu'on n'est pas des has-been, on est des précurseurs.
Précurseurs, on a tous compris.
Ça, c'était un peu le
c'est son nom, c'est son nom chez Marvel, c'est précurseur.
Le précurseur.
Bah, il a un costume d'ailleurs. Précurseur. Le costume de précurseur.
Mais c'est un des trucs cool de vieillir, non, aussi, je pense. Si on, bah de réussir à semer des petites graines comme ça, et en fait, génial. De se rendre compte 25 ans plus tard que vous en avez semé non, sur plein de générations.
En fait,
quoi.
On se voit parce que nous, quand on était jeunes, avec Guise, tu t'en souviens, quand Hubert Félix Stéphane nous appelle et qu'il nous dit, je fais un album de reprise, tu te souviens, et qu'on rencontre Hubert Félix Stéphane et qu'il se pointe sur les tournées avec nous, parce que c'est ça l'histoire qu'on avait avec Hubert. Il se pointait sur les tournées avec nous, on l'invitait même pour une date à l'autre bout de la France, il prenait le train et il venait nous voir et on chantait avec lui. Et quand tu te dis, putain, mais j'ai écouté Hubert pendant 15 ans et j'ai son 06, quoi. Et je le tutoie, je connais sa famille, je connais ses enfants et tout.
Bah, moi, depuis ces années-là, on s'appelle au moins deux ou trois fois dans l'année pour prendre des nouvelles, quoi. Ouais.
Tu vois, pareil pour Bernard Lavilliers, pareil pour Jacques Higelin, tu vois. Moi, j'étais un grand fan de Jacques Higelin. Voilà.
Quand Jacques Higelin, il rentre dans les loges. Je me souviens, on jouait avec lui à Melun. C'est la première fois qu'on le croisait sur un festival avec Trio. Comme des fous, on joue avec Higelin. Il rentre dans les loges avec son grand manteau, il fait « Trio, vous êtes la relève. Vous venez chanter avec moi tout à l'heure. » Et tu vois, bam, et la rencontre se fait comme ça. Et après, on part avec lui dans Paris. On passe une nuit incroyable. Et... Non, voilà, on a vécu
les petits jeunes, quand on va voir ces gros artistes-là, bah maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est les petits jeunes qui viennent nous voir et tout. Donc, c'est rigolo avec le temps.
Donc cet album sort le fin janvier, c'est ça, le 31
Il sort le 31 janvier.
31 janvier, donc vous avez après un Bercy
le 13 mars qui est complet.
Qui est complet, et donc on a rajouté le 27, 28, 29 novembre au Dôme de Paris, ancien Palais des Sports, où on va continuer le spectacle anniversaire. Et c'est une salle qu'on n'a jamais fait, jamais, alors qu'on les a toutes faites à Paris. Ça. Bah, non, c'est vrai, bah, tu vois... Ouais, donc c'était
à part ta salle de bain, ouais.
À part ma salle de bain, mais elle est pas sur Paris. Elle est en
banlieue. C'est vrai. Tu vois. Je vous donnerai l'adresse après.
Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois quand tu commences une tournée, c'est le choix de la salle est vachement important. Et puis là, on s'est dit, tiens, cette salle, elle est très classe. Elle permet de faire plein de choses au niveau scénographique. Et puis en même temps, elle a le côté assis. Ça va être assis debout. Et voilà, et on va s'éclater là-bas. On va faire trois dates au Dôme. On l'a presque pas annoncé, donc c'est un peu une exclu. Tu te rends compte un peu.
Merci beaucoup.
Et puis les festivals aussi, voilà, quand même.
Vous avez
une vingtaine de festivals.
Tourner cet été?
Ouais, alors là, on fait pas la tournée de festivals de dingue, mais on voulait marquer le coup dans les festivals. Donc ce coup bien voulu nous inviter, bien est venu.
Merci beaucoup, les gars.
Bah, merci à toi.
Merci de nous avoir reçus.
De rebalayer toute cette.
Ah, mais pareil, c'est très plaisant.
Pour nous,
de
c'est bien aussi.
Ouais, ça nous rappelle la chance qu'on a et cette jeunesse éternelle qui nous habite.
C'est vrai. Et puis c'est bien d'avoir le temps, parce que souvent dans les interviews, il n'y a pas le temps, alors on balaye de manière plus rapide. Alors là, on a été chercher dans nos souvenirs.
Trop bien.
Merci beaucoup.
Ah, merci à vous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.